Radio Okapi.
Bienvenue à ce journal présenté par Belinda Bosuma. Tout de suite, le sommaire. Psychose à Mitwaba dans le Haut-Katanga. La population dit craindre la présence des miliciens Bakata Katanga de Kyungu Mutanga Gédéon, mais ces derniers, dont la femme de Gédéon, disent venir en paix pour se rendre et demander la proclamation de l'indépendance du Katanga. Les autorités locales se disent dépassées. Certains quartiers de Bukavu ont des difficultés d'accès à l'eau potable à cause des maisons construites sur la conduite d'eau de la régie des eaux. Constat de cette entreprise, elle a saisi le gouvernement provincial et ce dernier annonce la démolition de toutes les constructions anarchiques de conduite d'eau à Bukavu. L'invité de ce midi, François Mouemedi, inspecteur des mines. Après une mission cette semaine en Ituri, il parle d'un constat amer. Tenez, la majorité des opérateurs miniers exercent leurs activités en toute illégalité. L'accès aux sites miniers est interdit au service de l'État par ses exploitants, parmi eux des Chinois. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Haut-Katanga. La population du chef-lieu du territoire de Mitwaba vit dans la peur à cause de la présence dans leur milieu d'une centaine des miliciens Bakata Katanga de Kyungu Mutanga Gédéon. Ces derniers sont venus annoncer à l'autorité territoriale leur intention de hisser le drapeau de leur mouvement dans le cadre de l'autodétermination. Jusqu'à présent, aucun cas de dérapage n'a été signalé, c'est ce que nous dit Jean Gandou.
Les sources sur place renseignent que la population était surprise de voir les miliciens du seigneur de guerre Kyungu Mutanga Gédéon chantant se diriger vers le bureau du territoire, armes à feu et armes blanches à la main, ce qui a sémé la panique, obligeant certaines personnes à fuir leur village. D'après les premières informations, ils ne sont pas venus pour s'y rendre, mais bien plutôt pour déposer deux lettres signées par leur leader Kyungu Mutanga Gédéon, adressées respectivement à l'administrateur du territoire de Mitwaba et au président de la République avec comme objet proclamation de l'indépendance du Katanga. Il informe qu'à l'arrivée de ces éléments, il sera question de hisser le drapeau de leur mouvement dénommé MIRA, Mouvement des indépendantistes et révolutionnaires africains. Nos sources indiquent aussi que, depuis qu'ils sont là, ils n'ont dérangé personne. Ce qui n'empêche pas les habitants d'avoir peur, car ils ne savent pas de quoi seront faites les heures qui suivent, en se rappelant de ce que ces miliciens sont capables de faire. Allusion faite à la période sombre pendant laquelle ce territoire était à feu et à sang. Présente dans le groupe, la femme de Gédéon Kyungu Mutanga a indiqué que ces hommes ne sont pas venus pour faire la guerre. Ils sont pour la paix et Gédéon ne veut pas que le sang coule. Leur destination finale est la ville de Lubumbashi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Du côté du Tanganyika, la mission des autorités provinciales pour la pacification de la localité de Kabeke se solde par l'ouverture de l'axe routier Kabeke-Manono. Cette route est restée inaccessible depuis les incidents mortels survenus le 1er janvier dernier. Trois personnes, membres des communautés Bantou et Toa, sont mortes pendant la fête de Nouvel An. Des décès qui ont entraîné des scènes de violence entre les habitants de Kabeke. Le ministre provincial de l'Intérieur appelle la justice à accompagner le processus de pacification du Tanganyika. François-Xavier Mibé. Reportage.
Le ministre provincial de l'Intérieur vient avec les membres de services provinciaux de sécurité de réaliser une semaine de travail pour la pacification de Kabeke, une localité située à 164 km au nord-est de Manono. Des scènes de violence survenues le 1er janvier ont entraîné la mort de trois personnes à Kabeke. Le ministre provincial de l'Intérieur, Dieudonné Kamona.
Il n'y avait plus le passage pendant plus de 15 jours. À la date d'aujourd'hui, alors l'accès et pacifié.
Les scènes de violence déplorées le 1er janvier ont affecté également le trafic routier entre Manono et Kabeke. Les miliciens armés d'arcs et flèches ont immobilisé des parts et d'autres des villages des dizaines de camions.
L'administrateur de territoire, avec tout son comité de sécurité de Manono, vient de se déplacer de Manono jusqu'à Kabeke et Nyemba Mukebo. Et de là, on va chercher maintenant les acteurs de ce désordre. Et ces acteurs-là doivent être acheminés devant les cours et tribunaux, parce que nous ne voulons plus vivre dans l'impunité. Et nous promettons que nous devons, en tout cas, frapper avec la rigueur de la loi.
Kalemi, François Djabemibé, Radio Kapi.
En Ituri, le mouvement citoyen Jeune Leader a lancé hier à Bunia ses activités pour l'année 2022. Selon le président de ce mouvement, Christian Chaouri, sa structure s'est fixée deux objectifs, à savoir la paix et le développement de l'Ituri. Les jeunes leaders estiment qu'il est temps que les choses changent dans cette province déchirée par l'activisme des groupes armés. C'est pourquoi ils s'engagent à soutenir le programme DDRCS qui, pour eux, est une occasion pour les jeunes enrôlés dans les groupes armés de déposer les armes et intégrer la vie civile, participer ainsi au développement de leur milieu. Ces jeunes disent être prêts à mener des campagnes pour décourager les antivaleurs qui bloquent l'avancement de l'Ituri. Leur président, Christian Chaouri, est au micro de Martial Kiza.
Vous savez que le développement de l'Ituri, c'est notre affaire. La paix de l'Ituri aussi, c'est notre affaire. Et il serait vraiment inconcevable si la jeunesse oublie les rôles qu'elle doit jouer. C'est pourquoi nous, les jeunes leaders de la province de l'Ituri, on n'allait pas vraiment croiser les bras. Et entre autres, dans ce cadre du développement, il y a aussi le volet maintenant de lutter contre les antivaleurs qui bloquent le développement et qui bloquent la paix. Et là, ça sera maintenant question de notre part pour les dénoncer et en fait de les condamner pour qu'il y ait un peu un changement positif. Les jeunes leaders de la province de l'Ituri soutiennent à 100% le programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour le développement et la paix. Donc c'est parmi des objectifs que nous nous sommes assignés parce que nous devons accompagner tous les processus qui tentent à nous donner la paix.
Nord Kivu, le Parlement d'enfants de Boutembo Lubero a lancé hier une campagne de sensibilisation des enfants sur les engins explosifs. C'est après la découverte en début de semaine d'une bombe ramassée dans une zone où sont implantées 3 écoles à Boutembo. Cette structure d'encadrement des enfants appelle les enfants à la prudence face à tout objet métallique non identifié et les autorités à s'impliquer dans la protection de l'enfant face à cette situation. Le président du Parlement d'enfants, Rigen Bangaye, explique le déroulement de cette campagne au micro de Grâce à Zati.
On a appelé les enfants à être vraiment curieux, à être prudents, à ne pas ramasser n'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons commencé par les églises. On a été à l'église avec les enfants de l'église Sauvetage. Et peu après, on va aussi passer dans les écoles, sensibiliser les enfants, puisque les enfants, soit, ils ont besoin de quelqu'un qui vient entre eux, qui leur montre les dangers. Nous avons des images que nous sommes en train de montrer aux enfants. Quelques images qui ressemblent effectivement aux grenades, qui sont quand même bien connues. On dit, si tu vois ceci, il faut pas ramasser. Et on montre le technique à utiliser. Par exemple, si un enfant peut voir une grenade, il doit mettre un signe pour indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et puis appeler un adulte qui viendra aussi vérifier à son tour. Si l'adulte à son tour ne se retrouve pas, il va faire appel à l'autorité militaire ou policière ou même à l'autorité locale. Nous appelons les autorités à vraiment nous aider pour que nous puissions atteindre au moins dans un bref délai une bonne partie des enfants de la ville de Boutembo. Et c'est là, surtout par les moyens de transport, mais aussi pour multiplier les images que nous avons pour qu'on puisse sensibiliser et laisser l'image là-bas, puisque là nous sommes vraiment avec un nombre très minime des images que nous sommes en train de montrer.
Je vous disais en titre, au sud Kivu, la pénurie d'eau de la régie des eaux au robinet dans certains quartiers de la ville de Bukavu relève des actes de sabotage. Certains habitants ont construit leur maison au-dessus de la conduite d'eau de la régie des eaux qui se trouve endommagée, privant ainsi des milliers d'abonnés de l'eau au robinet. Constat de la régie des eaux elle-même, et elle a saisi le gouvernement provincial qui annonce la démolition de toutes les constructions anarchiques sur les tuyaux de la régie des eaux à Bukavu. Emmanuel Elamiji nous en dit plus.
C'est depuis quelques jours que certains quartiers de la ville de Bukavu sont privés de l'eau potable au robinet. La régie des eaux Sud Kivu évoque une série de pannes sur son réseau de distribution. Les enquêtes découvrent une dizaine de maisons anarchiquement construites au-dessus de la tuyauterie de la régie des eaux au quartier Bugabo. Les tuyaux de la régie des eaux traversent même certains ménages à l'intérieur de la cuisine. Conséquence, l'eau ne peut pas arriver facilement aux abonnés du quartier d'Endere en commune d'Ibanda. Ainsi, la régie des eaux a saisi officiellement le gouvernement provincial ce week-end. Le gouverneur intérimaire s'engage pour la démolition de toutes ces constructions anarchiques.
Il y a manque d'eau dans la ville, il y a des fuites dans plusieurs parties de la ville et la régie des eaux malheureusement ne sait pas accéder à ces tuyaux pour la réparation parce que il y a de ces citoyens qui ont construit sur ces tuyaux là-bas. La loi est claire, on ne peut pas se permettre de construire au-dessus des conduites et le gouvernement provincial ne peut pas laisser plus d'un million de personnes sans eau. Nous allons accompagner la régie des eaux jusqu'à ce que la régie des eaux puisse accéder à ces conduites afin que l'eau soit rétablie dans la ville.
Pendant ce temps, l'eau de la régie des eaux coule de nouveau au quartier Nyalukemba en Gouba, cela 3 mois après. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Sud-Kivu toujours, la population de Moumoucho dans le territoire de Kabare s'engage dans la culture du café dans son environnement. C'est à travers l'organisation Union fait la force. Cette structure a procédé dernièrement à la distribution des boutures de café par ménage de Moumoucho, une action qui rentre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Le coordonnateur de l'Union fait la force, Dieu merci Nakalongue, explique au micro de Emmanuel Elameji.
Union fait la force est une organisation créée depuis 1999 dans le but de réduire la pauvreté ainsi que promouvoir le niveau de revenus des femmes de Chinkunga. Nous avions déjà mené les activités de culture de café. On a distribué 5 plantures de café à 400 ménages dans les villages de Chinkunga. Le café, c'est de l'or vert. À nos jours, beaucoup de gens ignorent, ils pensent que c'est seulement l'or qu'on doit promouvoir. La première des choses avec le café, dans un champ de café, tu peux émettre autant de cultures, entre autres haricots, les légumineuses. En plus, avec 1 kilo de café, ça coûte à nos jours à peu près 4 $ sur le marché. Si vous prenez 1 kilo d'haricots, c'est à 1 000 francs. Alors, c'est difficile de comparer la culture de café avec d'autres cultures. Raison pour laquelle nous voulons vulgariser ça au niveau de la communauté, afin que les gens puissent s'approprier cette culture et ça va réduire tant soit peu la pauvreté au niveau de la communauté et ça va aussi jouer par rapport aux revenus des ménages.
Rendons-nous dans la province du Maniema. La Fondation Justin Kamango Tabena, JKT, a fait un don de matériel médical à l'hôpital général de référence d'Alungouli. Ces matériaux d'au moins 1 tonne ont été remis à cet hôpital hier par le président du conseil d'administration de la Fondation JKT, ce en présence des membres de la société civile, du personnel médical et des curieux. Reportage de Florence Kizalunga.
Ces dons de la Fondation Justin Kamango Tabena a été constitué des lits d'opération chirurgicale, lits d'accouchement, lits métalliques, kits césariennes, panneaux solaires, projecteurs solaires, thermomètres, combinaisons d'opération, dorsales pour salle d'accouchement et autres matériels. Les PCA de la Fondation Justin Kamango Tabena expliquent les motivations.
Nous avons entendu le cri d'alarme de cet hôpital déranger beaucoup les enfants d'Alongoli, y compris moi, qu'on ne devrait pas laisser passer ces cris-là. Sans pourtant faire quelque chose. Nous demanderons aussi aux enfants d'Alongoli qui sont partout ailleurs d'aider Alongoli. En tout cas, le gouvernement central doit penser à la commune d'Alongoli. Et pourquoi pas le gouvernement provincial, parce qu'il y a aussi des gens à Alongoli.
En plus de remerciements au nom de l'hôpital, le médecin directeur parle d'une réponse aux problèmes réels de l'hôpital. Docteur Kaliongo Pataoulé.
L'hôpital vraiment était dans les besoins de matériel que la fondation vient de nous donner. Nous disons, tant que nous sommes médecin directeur ici, on va garder ce matériel en bon père de famille. Et nous disons merci à ceux-là qui ont donné quelque chose aussi avant cette donation. Et nous appelons les autres d'emboîter les pas. Merci au nom de l'hôpital général.
L'enveloppe globale de ces matériels est d'environ 20 000 $ américains. Kindo, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Le cadre national de concertation de la société civile demande au gouvernement de doter à temps la CENI des moyens pour lui permettre d'organiser des élections crédibles et dans le respect de délais. C'est ce qu'a déclaré hier à Kinshasa le coordonnateur de cette structure à l'issue d'un forum sur la réflexion et les défis de la société civile pour l'année 2022. Dany Singoma réclame aussi que le président de la CENI puisse remettre en place le cadre de concertation avec la centrale électorale pour la transparence et la confiance autour des élections de 2023. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Et nous voulons que la CENI et la société civile puissent jouer ce rôle de ramener les acteurs à la confiance. Il ne faut pas qu'aujourd'hui les animateurs de la CENI dorment sur les lauriers parce qu'ils ont été nommés et validés par le président de la République, mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a un rôle à jouer et ce rôle est à jouer avec la société civile. La loi électorale doit être votée au retour des vacances parlementaires, mais il faudra un minimum de consensus entre acteurs avant d'aller au vote de cette loi et que la loi électorale soit à la hauteur des attentes de la population. La population veut bien savoir quel est le mode de scrutin qui sera choisi. La population veut savoir quel est le mode de vote qui sera opéré. Nous voulons savoir les circonscriptions, les conditions d'élection. C'est le moment, c'est le lieu approprié où la société civile et la CENI parlent de manière structurelle. C'est à ça que nous nous attelons pour cette année. Au-delà de cela, il y a d'autres défis de la paix, de la sécurité à travers les pays. Nous avons organisé un forum à Goma sur le PDRC et nous pensons qu'il est temps maintenant que nos revendications soient prises en compte par les décideurs afin de faire que la société civile soit là-dedans. La société civile joue le rôle de veille et de garde. Nous demandons une concertation avec le gouvernement pour que effectivement nous puissions parler et nous entendre. Il faut que ces principes aillent jusqu'au bout.
La société civile demande aussi d'être impliquée dans le comité de pilotage du programme de 145 territoires de la RDC pour faire entendre les points de vue de la population à la base.
Actualité internationale.
Le Burkina Faso, qualifié pour les demi-finales de la CAN 2022, victorieux de la Tunisie hier, 1-0, une performance remarquable pour une équipe diminuée en début de compétition et une grande vague de joie à destination des Burkinabés alors que leur pays vient de vivre un coup d'État. J'aimerais partager cette joie avec le peuple. Nous dédions cette qualification à notre peuple, a confié le sélectionneur burkinabé, évoquant les derniers événements survenus au Burkina Faso où Roch Marc Christian Kabore, le président de ce pays, a été renversé par un coup d'État. Le nord-est des États-Unis est frappé par la tempête de neige Kenna. Des millions de personnes, 10 États touchés, des mètres et des mètres de neige qui ont causé d'importants retards dans les aéroports, des perturbations sur les routes et de nombreuses coupures de courant. L'état d'urgence est en vigueur dans plusieurs États.
L'invité.
Nous recevons François Mouemedi, inspecteur des mines. Il a effectué une mission cette semaine en Ituri et parle d'un constat amer après avoir palpé du doigt les réalités sur le terrain. La majorité des opérateurs miniers exercent leurs activités en toute illégalité. Les services de l'État ne détiennent pas de statistiques de production car l'accès au site leur est interdit par ces exploitants, parmi lesquels figurent des expatriés chinois. François Mouemedi s'entretient à ce sujet avec Jean-Claude Loki.
François Mouemedi, bonjour.
Bonjour.
Votre équipe a clôturé une mission d'inspection en Ituri. Quel a été votre constat fait sur le terrain?
Nous avons dit que le constat n'est pas bon, d'autant plus qu'une grande partie de cette province est occupée, comme vous le savez. Donc il y a des groupes armés qui se retrouvent aujourd'hui dans les différents sites miniers où l'accès est pratiquement impossible pour les agents des mines, que ce soit les agents de la division des mines de l'Ituri, que des SAIMAP. Et même nous, la délégation de Kinshasa, on devrait normalement aller partout pour aller vivre ce qui se passe. Nous avons été bloqués. Pourquoi? Parce que on nous a conseillé de ne pas y aller, d'autant plus qu'il y a l'insécurité.
Et vous avez aussi dit hier que la plupart aussi d'opérateurs miniers qui sont dans la zone n'ont pas de documents, n'ont pas de titres, exercent dans l'illégalité.
Je confirme, oui, il y a des opérateurs miniers qui n'ont pas des titres valables. Nous avons lancé un appel, plusieurs invitations, même nous avons lancé des communiqués de presse pour les faire venir ici. Mais nous avons reçu que 16 coopératives sur une centaine. Imaginez-vous, pourquoi ils ne sont pas venus? La question, je crois, est connue. Celui qui est en ordre doit aller vers les contrôleurs.
François, en quoi est justement ce désordre qui règne depuis je crois, plusieurs années dans ce secteur? Pourquoi l'État n'arrive pas justement à avoir la mémie dans ce secteur? Ça ressemble un peu à une jungle où chacun fait ce qu'il veut, quoi.
La République démocratique du Congo en général attire tous les pays du monde et en particulier la province de l'Ituri. Raison pour laquelle vous constatez qu'il y a des groupes armés contrôlés par-ci par-là. Pour, je vais dire, piller la richesse de la RDC. Parce que quand vous avez des Chinois qui sont entourés par des hommes en uniforme, et même les services des mines ne peuvent y accéder pour aller travailler, pour aller inspecter, comprenez-vous que les choses vont marcher? La réponse, c'est non. Donc, le jour où il y aura la paix en Ituri, c'est tout Ituri qui sera dans la joie, et les choses, l'économie d'ici va évoluer. Et c'est la République démocratique du Congo qui va aussi bénéficier parce que dans les trésors publics, il y aura des recettes qui vont augmenter.
Et vous disiez que les peuples ituriens ne profitent pas de ces minéraux, ça profite aux autres. Vous pensez que si tout se passe bien, s'il y a la traçabilité, s'il y a la paix, si vos services, justement, des mines accèdent à des sites pour avoir des statistiques, vous pensez que l'Italie peut vraiment tirer profit de ces minéraux, notamment de l'or?
Je viens de vous dire qu'avec la paix, tout est possible. Avec la paix, les services de mines basés à Ituri seront en mesure de recadrer les choses et la traçabilité, le respect de la traçabilité sera au bon trait et il y aura l'augmentation des recettes. Lorsque Dieu vous a donné tout et les peuples du continent auquel vous venez de faire allusion visent venir ici nous troubler pour qu'ils pillent nos richesses, et le jour où la paix va se retrouver dans ce pays par l'entremise et la volonté du chef de l'État. Mais c'est dans quelques années, le Congo en général sera le paradis, et en particulier l'Ituri.
François Ngoumedi, c'est bien de faire les constats, c'est bien d'être sur le terrain. Vous avez vu, vous avez vécu. Maintenant, à quoi la population iturienne peut s'attendre justement à la fête de votre émission? Qu'est-ce qui va se passer pour que la situation soit corrigée?
La primaire est réservée à son Excellence Madame la Ministre des Mines, Antoinette Ntsamba, qui le rapport globalisant sera déposé dans quelques jours et nous aurons à donner des suggestions dans les rapports. Et Madame va, au niveau des conseils des ministres, parler de ce qui se passe ici et le gouvernement de la République va s'en occuper.
Parce que je voulais dire, est-ce qu'il y a des sanctions, par exemple, ceux-là qui œuvrent dans l'illégalité, est-ce qu'ils se verront peut-être retirer si ce n'est pas les titres? Je ne sais pas. C'est dans ce sens-là.
La lumière est claire par rapport à ça. Ceux qui travaillent dans la violation du code minier, il y a des dispositions qui sont prévues dans la loi, c'est-à-dire les amendes transactionnelles et des pénalités. Au cas où il y aura résistance, la loi aussi est claire par rapport à ça. Donc, Madame la Ministre, tout comme le ministre des Mines, a le pouvoir de retirer. Voilà.
François Mohamedi, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
François Mohamedi, inspecteur des Mines, répondait aux questions de Jean-Claude Lokidile. C'est la fin de ce journal. Coordonné par Richard Junior Kamunga, supervision de Ben Kabamba, Willem Lungamba à la mise en onde et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de rester des nôtres.